La saison des randonnées et pèlerinages est lancée sur les chemins de Compostelle. Quelles en sont les nouveautés, Isabelle Duché?
Et pour nous parler de cette tradition millénaire qui ne cesse de se renouveler, nous sommes avec Laure Coupalliens, directrice de l'Agence française des chemins de Compostelle. Bonjour madame.
Bonjour.
Près de 500 000 pèlerins ont emprunté les chemins de Compostelle en 2024, un chiffre qui ne cesse de croître d'année en année. Notre région est traversée par trois des quatre itinéraires, les voies du Puy, d'Arles et du Piémont. Laure Coupalliens, quelle est plus précisément la progression de la fréquentation sur les chemins en Occitanie?
Alors en Occitanie, la difficulté c'est qu'on manque de si vous voulez, d'indicateurs. Donc ce que je peux vous indiquer, ce sont les chiffres, là où nous avons ce qu'on appelle des éco-compteurs. Nous avons effectivement également des associations de pèlerins qui nous renseignent, des offices de tourisme. On sait qu'au niveau de la voie du Puy-en-Velay, on a environ 35 000 personnes qui partent chaque année. Et à l'autre extrémité, en Pyrénées-Atlantiques, à Saint-Jean-Pied-de-Port, nous avons environ, on va dire peu ou prou, une cinquantaine de milliers de personnes. Alors, sachant qu'effectivement, on a aussi ce phénomène de personnes qui démarrent le chemin à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc voilà, la vérité, elle se situe au-delà de l'Occitanie, mais sur la totalité de l'itinérance, on va dire entre 40 et 50 000 personnes, toutes voies confondues. Après, strictement en Occitanie, eh bien, il faut qu'on continue à travailler sur l'observatoire pour être plus précis. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de pourcentage d'augmentation, si on prend sur les éco-compteurs, effectivement, on est en augmentation constante depuis la fin du Covid. On est entre 4 et 5 % sur certains éco-compteurs d'augmentation d'année en année.
Le pèlerinage de Compostelle appartient à une tradition chrétienne, mais de plus en plus de marcheurs, nous le savons, n'ont pas une démarche à proprement parler spirituelle. Comment expliquez-vous un tel engouement?
Alors, je ne formulerai pas tout à fait les choses de cette manière-là. Effectivement, on a de moins en moins de personnes qui font effectivement le chemin dans un but religieux. On est à moins de 14% aux dernières études. Mais on a un certain nombre de motivations qui sont liées au spirituel, mais pas effectivement dans le sens culturel du terme. Des personnes qui souhaitent se retrouver, se reconnecter à elles-mêmes, faire un point sur leur vie, ou alors prendre un temps pour réfléchir à ce qu'elles veulent faire après. Donc, on est bien dans une démarche spirituelle et c'est ce qui fait aussi la richesse des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. On est dans une forme de, finalement, de dévotion, mais qui n'est plus forcément raccordée à de la dévotion uniquement chrétienne.
Une quête de sens, en tout cas, on pourrait le dire comme ça, un besoin d'ailleurs.
Une quête de sens et d'introspection, beaucoup.
Oui, d'introspection. Laure Coupalliens, quel constat faites-vous de l'évolution de la population qui parcourt ces chemins de Saint-Jacques de Compostelle? Quels âges ont-ils? Quel sexe? Quelle situation professionnelle? Est-ce que vous avez et puis aussi une idée sur la durée de la marche? Parce qu'on sait qu'on peut faire un pèlerinage pendant 3 semaines ou bien faire des tout petits tronçons.
Oui, alors pour vous répondre sur la durée de la marche, effectivement, bien les rythmes actuels font que faire le chemin de bout en bout, quel que soit son point de départ, effectivement devient de plus en plus rare parce que ça nécessite de consacrer à cette expérience au moins 2 mois, 2 mois et demi. Quand on est actif, c'est complexe. Aujourd'hui, on sait que la durée moyenne, elle se situe entre 20 et 25 jours. Donc, on voit que nous sommes sur des périples d'une semaine, 2 semaines, avec une population plutôt majoritairement féminine. Alors, pas de beaucoup, mais effectivement, on est à la dernière étude, alors qui commence à dater, hein, qui date de 2021, mais pour l'instant, qui reste étude de référence. Par exemple, sur la voie du Puy, on est quasiment à 54% de femmes et beaucoup de femmes seules.
D'accord, voilà. Beaucoup de femmes seules. Et puis, dans les tranches d'âge et les catégories socio-professionnelles?
Alors, sur les tranches d'âge, effectivement, la population la plus importante, on est sur donc une population entre 55 et 70 ans. Néanmoins, on note qu'il y a un vrai rajeunissement, puisque la deuxième population, ce sont effectivement les 18-30 ans.
Ah oui.
Donc effectivement, et alors en Espagne, c'est encore plus marqué puisque pour le coup, on a vraiment, non pas égalité, mais en tout cas, la part des jeunes augmente d'année en année. Donc on a un public qui est beaucoup plus jeune en Espagne. Ça s'explique notamment par la prise en compte de la Compostela, donc ce petit diplôme que vous recevez quand vous avez fait au moins 100 km à pied et 200 à vélo pour attester que vous avez fait le chemin de Saint-Jacques, eh bien, voilà, on sait que les jeunes Espagnols, les jeunes Américains, les jeunes Coréens le valorisent dans leur CV.
Ah oui, c'est comme un rite de passage en fait pour eux.
Tout à fait, ça montre une forme de résilience, une capacité de se surpasser et d'aller de l'avant.
Oui, c'est intéressant. Depuis quelques années, des efforts ont été faits pour rendre accessibles les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle aux personnes en situation de handicap. Quelles sont les principales avancées en ce domaine dans notre région ?
Ah, alors, la question de l'accessibilité des chemins est une question qui nous tient vraiment beaucoup à cœur à l'agence, puisque pour nous, ce bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, donc patrimoine de l'humanité, doit être vraiment accessible à tous. Ça nous paraît vraiment cohérent avec les valeurs du bien. La difficulté, d'une part, c'est de pouvoir disposer de données fiables sur les services qui existent déjà à disposition. Donc, dans ce but, par exemple, sur le tronçon Figeac-Cahors, il y a eu un diagnostic qui a été réalisé en 2021 en partenariat donc avec le Parc naturel régional des Causses du Quercy et l'Agence française des chemins de Compostelle. Une étude, donc un diagnostic réalisé par le cabinet Humans. Et donc, ça nous a permis déjà, avec nos collègues du Parc naturel du Causses du Quercy, de partir déjà d'un état des lieux. Où est-ce qu'on en était au niveau des services? Qu'est-ce qui était possible? Qu'est-ce qui n'était pas possible? Alors effectivement, on a plusieurs types de handicap, plusieurs grandes familles de handicap. Sur le handicap moteur, le parc naturel a mis en œuvre un certain nombre de déviations, de variantes qui sont testées avec des jouellettes notamment. Donc ces fauteuils donc adaptés à la randonnée, donc avec une personne qui vous accompagne, qui est derrière vous, de manière à voir là où ça passait, là où ça passait pas, et donc de donner de l'information fiable sur ce qui est accessible, notamment voilà, sur de la jouellette, mais aussi sur des choses un petit peu plus tout terrain comme l'hippocampe. Et le deuxième axe de travail, c'est d'avoir le matériel. Parce qu'effectivement, quand on a un handicap moteur, on a souvent effectivement de quoi se mouvoir au quotidien, mais pas forcément sur des terrains accidentés.
Et oui, c'est ça. Et l'hippocampe, ça permet justement, c'est une forme de fauteuil spécifique.
Voilà, c'est un fauteuil à trois roues qui est vraiment tout terrain. Et le parc naturel des Causses du Quercy en a fait l'acquisition. Donc, depuis l'année dernière, il est à disposition de manière gratuite de ceux qui en font la demande pour pouvoir expérimenter eh bien, certains tronçons sur le territoire du parc.
Il faut peut-être le réserver quand même avant.
Il faut appeler, oui. Bien évidemment. D'accord. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Après, effectivement, je pense que dans les années, en fonction des financements disponibles, on essaiera de faire mieux en termes de nombre d'appareils disponibles. Après, on a des associations aussi qui mènent un vrai travail de retour de la réalité du terrain. Je pense à Activandi, effectivement, qui est gérée. Donc, c'est une association loi 1900 qui est gérée par un couple dont la dame est en situation de handicap. Et donc, ils testent les chemins, ils recensent les services disponibles. D'ailleurs, ils ont même contribué à réaliser, et je crois que ce sont les seuls à le faire, des rendez-guides. Qui permettent d'en savoir plus sur ce qui est accessible et pas accessible,
oui, ça, c'est
par
précieux.
Exemple.
Oui. Voilà. Oui, oui. En ce qui concerne le handicap visuel, par exemple.
Alors justement, le parc naturel régional des Causses du Quercy a beaucoup travaillé sur la signalétique, un handicap visuel, et puis effectivement le tout ce qui va être difficulté d'ordre déficience mentale, de manière à rendre les plans d'accès plus simples à comprendre, à appréhender, avec des polices de caractère pour les malvoyants, plus facile à lire. Donc, il y a tout ce travail aussi de mise en adéquation de la signalétique qui est très importante et qui est réalisée effectivement, par les partenaires sur le terrain.
Mmh. Et avec aussi peut-être parfois des indications qui sont en braille.
Alors, pas forcément.
Non, pas forcément.
Alors après, la question du braille, je ne suis pas du tout spécialiste. Donc effectivement, je sais qu'il y a plusieurs écoles. Aujourd'hui, effectivement, le braille, on a une partie de la population qui ne le pratique plus, mais qui pratique par contre l'audio. Donc effectivement, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir mettre des liens vers des contenus audio qui expliquent, qui décrivent et qui accompagnent la personne en situation de handicap. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que il faut être à l'écoute du souhait d'itinérance de la personne en situation de handicap. Dans un petit déjeuner virtuel que nous avons réalisé la semaine dernière, qui est disponible sur la chaîne YouTube de l'Agence française des chemins de Compostelle, on a eu de très beaux témoignages de deux associations, Compostelle 2000 et l'association des premiers pas, justement, qui témoignaient déjà de l'entraide, puisqu'effectivement, le cheminement en situation de handicap, il peut se faire ensemble, avec bien des personnes qui sont là pour accompagner la personne qui souhaite faire son cheminement. Que ce soit pour pousser, que ce soit pour orienter, pour partager aussi, puisque je sais que l'association Compostelle 2000 se mobilise pour encadrer les personnes de manière à ce qu'elles aient les mêmes expériences que quelqu'un qui le ferait dans des conditions, on va dire, classiques.
Ordinaire.
Donc ça, c'est important. Après, on avait le témoignage d'une dame qui, elle-même en situation de handicap, souhaitait être autonome. Et donc là, on réfléchit sur le matériel, on réfléchit sur le dispositif. On a aujourd'hui des Quadrix, qui sont des fauteuils roulants électriques rechargeables. Qui ne sont pas adaptés à tous les types de terrain, mais il y a une réflexion des jouellettes avec un petit peu de motorisation pour monter les pentes. Et puis, ce qui est important d'avoir en tête, on pense au handicap, mais on pense aussi aux personnes qui sont dans des maladies, dans des types de handicap qui sont liés des maladies comme Parkinson ou qui sont vraiment invalidantes. Et là, c'est vraiment un des sujets de l'association Premier Pas, de les accompagner justement dans leur premier pas sur le chemin, à leur écoute, dans l'échange, avec notamment parfois des médecins, un suivi psychologique qui permet effectivement d'être dans l'écoute. Je pense que le terme, c'est écoute, dans la mise en lien. On sait que, par exemple, quand on est sur des diagnostics ou des maladies un peu invalidantes, on est d'abord isolé. Et là, ça recrée du lien déjà entre les malades. Et aussi, ça apporte beaucoup aux soignants qui participent à ces échanges.
Oui, on entend qu'il y a effectivement beaucoup d'écoute. Hein. Je voudrais profiter, leur coupe alliance, de cet entretien pour vous interroger sur ce projet Ultrea Sudoé qui existe depuis 2024 et qui va durer jusqu'en 2026. Il vise à valoriser les territoires ruraux traversés par les chemins de Compostelle. Et si on prend que ce territoire du Gers, c'est le territoire d'Eauze, je ne sais pas comment vous dites.
D'Eauze,
voilà, qui participe. En quoi ça consiste concrètement?
Alors concrètement, ça consiste d'une part à pouvoir en savoir plus sur les cheminants. On parlait tout à l'heure des co-compteurs.
Voilà, c'est ça, donc c'est aussi ça.
Justement, on a cette notion de pouvoir en installer un pour en savoir plus déjà sur les flux. Et puis, effectivement, une dimension de valorisation des produits locaux, puisque, au contraire, on a souvent en tête les biens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO comme des choses qui vont amener du surtourisme ou autre. Dans le cas des chemins de Saint-Jacques, ça, c'est une opportunité formidable de faire découvrir les territoires, de créer de l'échange entre cheminants et accueillants, et effectivement, les accueillants valoriser leur savoir-faire. Et grâce aux offices de tourisme impliqués, cela va permettre de faire découvrir tout ce qui se fait dans cette partie du Gers. Et Dieu sait qu'il y a merveilleuses choses à découvrir, ne serait-ce qu'avec le patrimoine gastronomique et viticole. Et on sait que le cheminant, même s'il est dans la sobriété heureuse pendant son voyage, va souvent revenir en famille, dans des contextes vraiment différents.
Avec une démarche de tourisme, alors, plus
difficile. Voilà, tout à fait. Et là, effectivement, le fait d'avoir pu découvrir les territoires va lui permettre d'avoir envie de revenir.
Et de partager sa découverte. Merci beaucoup, Laure Coupe-Alliance. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Agence française des chemins de Compostelle. Vous nous avez renseigné ce matin sur l'évolution de leur accessibilité et sur les défis à relever dans les prochaines années. Merci beaucoup.
Merci à vous.